Bienvenue dans ce nouveau podcast, Le voyage avant la destination. Premier épisode, c'est quoi la mort ? Alors la définition du Larousse nous dit « La mort est la cessation complète et définitive de la vie d'un être humain ou d'un animal ». Jusque-là, tout va bien, on sent tout et tous un peu, il n'y a pas de surprise. Mais qu'en est-il de la mort selon différents points de vue ? Juridiquement, le cadavre humain est considéré comme une chose. Alors attention, ce statut reste particulier du fait de l'attachement et de la considération que nous portons à la dépouille de l'être cher. Il est évident que malgré ce statut juridique de chose, nous ferons moins de manière quand il s'agira de nous débarrasser de notre frigidaire ou d'une vieille paire de godasses. Ainsi, malgré que le cadavre soit considéré comme une chose, n'importe quelle atteinte à son intégrité, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Concernant le recel de cadavre, c'est-à-dire le fait de dissimuler un défunt ou d'y contribuer, le curseur monte pour atteindre 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, sachant que ces peines peuvent être augmentées selon les circonstances. Alors un éventuel débat pourrait porter sur le fait de considérer que l'atteinte à l'intégrité d'une dépouille est moins grave pénalement que son recel. Attaquons-nous maintenant à la mort d'un point de vue philosophique et citons Socrate. Socrate qui nous dit « Être mort consiste bien en ceci ». Le corps isolé, une fois séparé de l'âme, est devenu lui-même tel qu'en lui-même. Et l'âme isolée, une fois séparée du corps, est elle-même telle qu'en elle-même. Allez, soyons fous et allons encore un petit peu plus loin avec notre ami Platon qui, lui, nous dit « La mort nous délivre du monde sensible, les maladies, la douleur, et c'est pourquoi le corps est le tombeau de l'âme. » Vous avez déjà mal au crâne ? Parlons plus simplement. Les philosophes spéculent simplement sur l'âme immortelle et le corps mortel. Pour Socrate et Platon, nous n'allons citer que, point trop n'en faut, au moment du décès, ces deux entités reprennent leurs existences propres et l'âme se libère de la prison qu'est le corps. Donc, youpi joie, a priori, c'est une super bonne chose et nous devrions nous en réjouir. La vie terrestre, je vous jure franchement, mais quelle barbe ! Nous ne sommes évidemment pas tous philosophes, et notre capacité à nous réjouir de la mort est par conséquent toute subjective. Sauf, peut-être, éventuellement, la mort de quelqu'un qu'on ne peut pas blairer. Allez, humour noir, pas la peine de s'offusquer. Maintenant, si nous nous penchons du côté de la science, on ne parlera plus de l'âme, mais de la perte de la conscience. Et cette notion de conscience reste encore de nos jours assez floue. Au niveau de l'éthique, c'est encore plus compliqué, et nous aurons le loisir d'en débattre une prochaine fois. On va dire que de façon générale, la mort cérébrale détermine la mort d'un individu. On entend par là l'absence complète d'activité cérébrale. En cas d'organe défaillant ou ne pouvant plus fonctionner seul, la médecine moderne permet, grâce à une technologie en progression constante, à des machines de prendre le relais. Mais qu'en est-il de la conscience ? Rien ne permet à l'heure actuelle de pallier à sa perte. Ce serait donc bien elle qui signifierait la mort d'un individu. Ou pas, selon vos croyances. Et là, on met le doigt sur un sujet de société qui divise encore et toujours, l'euthanasie et le suicide assisté. Le thème est tellement vaste et ardu que nous lui consacrerons une émission complète. La religion, l'éthique et la politique étant intimement liées dans ce dossier fin de vie programmée, les débats sont particulièrement animés. Curieusement, les religions, elles, revendiquent toutes soit la résurrection, soit la réincarnation. Et ça, franchement, ça réchauffe nos petits cœurs, ça nous rassure. La mort n'est donc qu'un passage et non une fin. Les catholiques et les musulmans, par exemple, sont dans la team de la résurrection. Résurrection qu'on appelle aussi relèvement des morts et qui signifie un passage physique de la mort à la vie. Alors attention, hein, ne vous mettez pas en tête l'image du corps qui sort de sa tombe sous forme de zombie. C'est pas du tout la même chose. Là, lors de cette résurrection, nous restons nous-mêmes, à la différence de la réincarnation. En quoi croit la team des bouddhistes et des hindous ? Pour eux, l'âme, l'énergie, la conscience spirituelle, l'esprit, peu importe le terme utilisé, survit après la mort et effectue des passages de vie successifs dans différents corps physiques, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux. Ainsi donc, on constate bien une tendance à séparer le corps physique du corps dit spirituel, qu'on lui donne le nom d'âme, d'esprit, de conscience, d'énergie ou autre. D'où la difficulté à appréhender un sujet sur lequel tout le monde a une vision différente et souvent bien personnelle. L'âme est-elle la conscience ? Ou inversement, s'il y a des adeptes de yoga parmi l'audience, vous savez que dans cette discipline physique et ou spirituelle, nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'âme et la conscience peuvent être deux choses différentes. La conscience cessant d'exister au moment de la mort et l'âme, elle, y survivant. En fonction de vos croyances intimes, le champ des possibles est-il limité et peut donner le vertige ? Personnellement, moi je pense que ma conscience et mon âme ne font qu'une, que seul mon corps physique décédera. Mais ça n'est que ma croyance à moi. L'unique certitude, on va tous y passer par la mort. La mort physique. La question de savoir s'il y a un après est donc toute subjective, même si ce sujet est passionnant et que la médecine et la science se sont penchées depuis longtemps dessus. La mort d'un côté fascine, d'un autre terrifie. Elle attise notre curiosité, oui. Nombreux sont ceux qui ralentissent devant un accident de la route, en espérant peut-être apercevoir un bout de cadavre sanguinolent et pouvoir ensuite en parler au tout venant. Mais la mort nous dégoûte tout autant, souvent par manque de connaissances ou accumulation d'idées reçues. Et je vous parle de ça en toute connaissance de cause. Moi je suis thanatopracteur, et bien que je ne sois pas morte, du moins il ne me semble pas, petite pensée émue au film Sixième Sens, j'ai souvent affaire avec la réaction désapprobatrice, dégoûtée, effarée, voire les trois en même temps, alors imaginez un petit peu la tête, de mes interlocuteurs qui décidément ne comprennent vraiment pas ce qui ne va pas chez moi pour faire ce métier dégoûtant. Merci pour la petite insulte glissée au passage et pour cette belle ouverture d'esprit, mais enfin bon, allez croire, c'est plutôt moi qui l'ai perdu l'esprit. Allez, je referme cette parenthèse. Petit nota bene quand même, je vous glisse la définition du thanatopracteur, ça ne peut pas faire de mal. Le thanatopracteur est un professionnel avec un vrai diplôme, juré, craché, qui intervient sur le corps d'un défunt pour lui faire soit des soins de conservation, soit une toilette mortuaire. Pas un embaumement, s'il vous plaît, ça n'est pas la même chose. Et ce sera également un sujet à part entière. Je tiens à préciser que le thanato, c'est un petit mot affectueux qui nous désigne, tout du moins par ceux qui nous aiment quand même un tout petit peu, n'est ni alcoolique, ni drogué, ni dépressif. Et oui, bizarrement, personne ne l'a forcé à faire ça. Et oui, encore plus fort, il aime aussi les vivants, malgré leur complète ingratitude à son endroit. Voilà, vous l'aurez compris, nous allons avoir ensemble de longues et passionnantes discussions, sans en tout cas le film que je me fais dans ma tête, afin de peut-être vous faire voir la mort et son cortège différemment. Il ne s'agit pas de ne plus en avoir peur, mais plutôt de mieux la connaître pour mieux vivre avec. Et n'oubliez pas, en parler, ce n'est pas trépasser.